Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Médien pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien. Amna, l'Afrique en culture.
Dans quelques instants, nous serons avec un jeune homme, il s'appelle Mehdi Elkindi et il est à l'origine de Mwej, ce premier festival qui met à l'honneur, qui met sur le devant de la scène la radio, mais également le monde du podcast et le monde et la création sonore qui a clôturé ses portes le 17 décembre dernier. Une occasion en or pour nous de revenir avec lui sur cet événement phare et de parler podcast en Afrique. Sinon, nous aurons l'immense plaisir de recevoir une jeune artiste, une jeune femme qui nous a fait vibrer. Elle s'appelle Shams et elle est née en quelque sorte artiste. Elle est autrice, compositrice et interprète. Et malgré ses études en agronomie, le monde de l'art l'a très vite rattrapée, notamment le monde de la musique. Dès son plus jeune âge, une passion la dévore, celle de la musique. Depuis, elle en a fait plus qu'une passion, mais une vocation. Puis nous parlerons également cinéma avec Désert, un film hybride à la croisée de la satire sociale et du western. Vous l'aurez deviné, c'est le nouveau film du réalisateur marocain Fawzi Bensaidi, un film burlesque mais dont le fond est définitivement sociologique. Dans Désert, on suit les pérégrinations de Hamid et Mehdi, deux employés d'une société de recouvrement. Tout un programme signé Fawzi Bensaidi. Et comme promis tout à l'heure, place tout de suite à Mehdi Elkindi, qui est à l'origine du festival Mwej, consacré à la radio, au podcast et à la création sonore. Donc une première édition très fructueuse qui a refermé ses portes le 17 décembre dernier. Il faut dire que Mehdi Elkindi baigne dans le son depuis toujours, puisqu'il est animateur mais également producteur. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de proposer ce festival autour du monde du podcast. Et qui est né surtout de l'envie de tendre le micro à un maximum de personnes afin de raconter des histoires singulières. C'est ainsi qu'est née pour lui la passion du podcast, puisque quand on parle de podcast, ce n'est pas forcément, comme il le dit, une révolution copernicienne. L'histoire du podcast, ce n'est pas tant le format que le mode de diffusion. Fin de citation. Il faut dire que pour Mehdi Elkindi, le podcast est une invitation à plonger dans un univers, des univers, une expérience sonore qui change du monde de la radio, plus intime et qui crée ce lien, cette connexion entre le compteur et l'auditeur. D'ailleurs, on écoute tout de suite Mehdi Elkindi.
À moi, déjà, c'est né d'un constat. Ça fait 2 ans maintenant qu'on mène, en collaboration avec l'Institut français du Maroc et l'ONG Making Waves, des formations autour du podcast documentaire à destination de jeunes ou moins jeunes porteuses et porteurs de projets qui viennent avec des projets personnels et puis on les accompagne via une formation de quelques jours à l'écriture, à la prise de son et ce genre de choses. Et puis par la suite, le studio Les Bonnes Ondes continue de les accompagner. On s'est rendu compte en fait que via ces formations, que beaucoup de gens étaient intéressés par l'outil podcast, l'outil son, qui avait des vocations qui se créaient. À titre d'exemple, Yasmine Mehjoubi, qui a rejoint l'aventure Les Bonnes Ondes aujourd'hui en tant que réalisatrice, notamment dans le studio, est issue d'une de ses formations. Donc il y avait vraiment des vocations qui se créaient. Et on s'est dit, pourquoi ne pas capitaliser sur cette jolie énergie, toutes ces personnes qui s'intéressent à l'outil son. On voit aussi qu'au-delà de ces formations au Maroc, le podcast est en plein boom. Il y a de plus en plus de gens qui font du podcast, de plus en plus de gens qui écoutent du podcast, qui s'intéressent à ça. On a commencé à réfléchir à un temps fort autour de l'audio. L'idée, c'était de faire quelque chose un peu plus simple qu'un festival, de se dire on va prendre peut-être une journée, faire venir différents intervenants pour discuter du son, du podcast, de la radio. Et puis devant l'engouement des différentes personnes qu'on a contactées, On a commencé à rêver plus grand, on a commencé à rêver plus fort, et le temps fort s'est transformé en festival. On a enfin osé le mot festival. C'est quelque chose qui n'était pas gagné au départ, parce qu'on n'arrive pas avec ses grands sabots comme ça, et on se dit bon ben on va faire un festival et puis ça va marcher. Et au final, devant l'engouement de toutes ces personnes, que ce soit les gens qui écoutent, que ce soit les gens qui font, que ce soit les professionnels qui viennent de l'étranger ou qui viennent du Maroc, eh ben on s'est dit on peut se permettre de proposer un festival, de proposer un festival des écoutes qui soit dédié au-delà du podcast, à la radio, à la création sonore, au son sous toutes ses formes.
Et Mehdi, voilà, on est quelques jours après le festival Amouage qui a donc refermé ses portes le 17 décembre dernier. Et si tu devais faire un petit point, un résumé, qu'est-ce qui te vient en tête en premier ?
Si je devais faire un résumé de cette session, cette session a été exceptionnelle. Il y a eu énormément de gens qui sont venus, c'est-à-dire au-delà des professionnels qu'on a invités. Je rappelle qu'il y a plus d'une cinquantaine d'intervenants qui venaient de France, de Belgique, du Maroc. Donc des professionnels qui sont habitués à parler de leur travail. Et ben là, on a eu une audience, une affluence à laquelle on ne s'attendait pas. On l'espérait, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui viennent et qui soient intéressés soit par les tables rondes, soit par les formations, soit par les installations ou encore les formations qu'on a proposé. Il y a eu un gros engouement. Les questions à la fin des tables rondes étaient juste folles. Il y a toujours ce moment où on est un peu inquiet à la fin d'une table ronde quand on se tourne vers le public et qu'on demande si les gens ont des questions. Et ben là, il y en avait. Il y avait de l'envie, il y avait une volonté de savoir plus, il y avait une volonté de discuter des idées. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez puissant, quelque chose qui restera, en tout cas moi, dans un coin de ma tête. Ça prouve que c'est pas une lubie, ça prouve que lorsqu'on se dit qu'on va monter un studio de podcast et qu'on va monter un festival, et ben c'est pas juste une folie passagère. Il y a quelque temps, je disais que le podcast était un buzzword, que les gens utilisaient ce mot à tort et à travers. Et ben ce festival vient prouver que ce n'est pas une mode, ce n'est pas un buzzword, c'est un mode de consommation nouveau de l'audio. Après le séisme qu'a connu le House, les gens se sont tournés vers la radio pour s'informer. Les gens se sont tournés vers la radio pour avoir des informations vérifiées. La radio a fait un travail exceptionnel pendant cette période-là d'appeler les gens de la société civile sur place, de faire réagir des sismologues, ce genre de choses. Donc il y a un retour à l'écoute et il était important de s'inscrire dans ce retour à l'écoute. Et l'audience, en tout cas, n'a pas failli. Et c'était de très 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 jolis moments qu'on a vécu pendant ce festival.
Et voilà, donc c'était la première édition du festival Amouage. Mehdi, une très belle première édition. Et voilà, on pense déjà au lendemain. Et comment imagines-tu la prochaine édition, Inch'Allah ?
La prochaine édition, moi, je ne la vois pas forcément plus grande. On a toujours tendance à vouloir faire plus. C'est une première édition qui est très réussie. L'idée, peut-être, c'est de garder justement cette taille humaine. On a accueilli énormément de monde, mais les intervenants sont restés accessibles. Ils étaient là, donc en un seul lieu. Il y a eu évidemment des choses qui ont été faites au studio Hiba et à l'usine, mais le gros s'est concentré donc, dans le centre-ville casablancais. L'idée, c'est de garder cette taille humaine pour permettre aux curieux, pour permettre aux amateurs, pour permettre aux autres professionnels de rencontrer des professionnels qui viennent d'un peu partout. On a eu l'occasion de parler de livres audio, de féminisme, de reportages de guerre, de former des gens, et tout ça dans une ambiance très décontractée, une ambiance un peu de colonie de vacances, limite. Et ça, c'est quelque chose de très important. Garder cette taille humaine, c'est le plus important. Donc, penser les tables rondes différemment, c'est un festival sur lequel on a énormément travaillé en termes de contenu. L'idée pour nous, c'est d'offrir de vrais moments d'échange pour les gens. Je crois que le pari a été réussi. Et donc, continuer d'avoir la même rigueur par rapport à la programmation des tables rondes et des rencontres et faire intervenir des gens d'horizons encore différents. Continuer de pousser la réflexion et continuer d'inviter les gens à venir partager leurs réflexions, à venir partager leurs interrogations, leurs curiosités et surtout susciter de nouvelles vocations, parce que ce qui manquerait peut-être aujourd'hui, c'est davantage de gens qui produisent du podcast. Il en faut plus, il faut plus d'histoires, il faut qu'on se réempare de la parole et qu'on se réempare de l'écoute.
Merci beaucoup Mehdi El-Kindi d'avoir été avec nous et bien sûr on a hâte de voir la prochaine édition du festival Amouage dont c'était la première édition. cette année qui a refermé ses portes le 17 décembre dernier. Tout de suite, après avoir parlé du monde du podcast avec Mehdi Elkindi, nous parlons cinéma avec Désert, un film hybride à la croisée de la satire sociale et du western. C'est le nouveau film du réalisateur marocain Fawzi Bensaidi, un film burlesque dont le fond est définitivement sociologique à y voir de plus près. Il faut dire que dans Désert, on suit les aventures, les pérégrinations de Hamid et Mehdi, qui travaillent tous deux pour une société de recouvrement. Un duo de choc improbable, définitivement tragicomique, qui arpente le désert en costume cravate pour essayer de récupérer le moindre sou ou tout moyen de paiement auprès des habitants des villages. Sauf que ce quotidien va vite tourner au vinaigre.
Les chiffres, Nazlin, Ouzaïroulia, les mauvais payeurs. Hamid Dergoun et Mehdi Attafin Houma. Les résultats de la commune, les résultats de la commune,
c'est le petit mélion. Je suis là.
Désert, donc le dernier film de Fawzi Bensaidi, dont la caméra suit deux individus quelque peu louches, Mehdi et Hamid, employés d'une agence de recouvrement de Casablanca. Il faut dire que le réalisateur met en scène leur cheminement, leur pérégrination, avec un œil aguerri qui donne à voir des paysages westerniens du Maroc. Alors au-delà de l'esthétique, Fawzi Bensaidi a voulu aussi filmer des petites gens face au vide, fin de citation. Il construit peu à peu un univers burlesque, teinté d'un humour froid, noir. Il dira d'ailleurs, dans sa forme, Désert est également pluriel. C'est un film burlesque, un western quasi mythologique, un conte, mais également une satire. Il faut dire que le film ne répond pas à une, mais à plusieurs histoires. Il propose deux centres, plusieurs personnages et plusieurs réalités. Désert raconte les déserts des êtres humains, de leur vie spirituelle, mais également intérieure, sans oublier leur existence quotidienne. Loin de tout misérabilisme, Fawzi Bensaidi s'éloigne de toute image de carte postale léchée. Désert s'est imposé comme une œuvre d'exception. Il a décroché d'ailleurs deux prix majeurs. Tourné en 2021 dans la région de Marrakech, Désert au pluriel est une œuvre cinématographique qui se démarque par son audace, par son burlesque et par sa manière de voir les choses. Fawzi Bensaidi décrit ce projet comme étant très différent de ses précédentes réalisations. Et c'est vrai qu'il nous plonge dans un voyage cinématographique singulier qu'il serait dommage de refuser. Et avant de recevoir Shams, cette jeune artiste, cette jeune interprète, autrice et compositrice qui nous a fait vibrer avec son premier single, je vous propose tout de suite Rema avec Calm Down, un classique du chanteur nigérian, et on se retrouve dans quelques instants.
For lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta.
Calm Down, l'hymne de Rema qui nous régale comme à son habitude. Il faut dire qu'on adore vous programmer ce morceau dans l'Afrique en culture. L'Afrique en culture qui se poursuit justement avec une jeune chanteuse, elle s'appelle Shams. Elle est tombée dedans quand elle était toute petite, depuis toujours, comme elle le dit. Elle se considère comme une âme créative. Et son désir ardent d'art, de musique, elle l'a très vite étreint. Elle s'est plongée dans l'univers de la chanson, de la musique. Et peu à peu, son talent a pu s'épanouir, se confirmer jusqu'à la sortie de ce tout premier single baptisé Dikra. Et il faut dire que pour Shams, la musique maghrébine est une véritable passion, chose qui l'a poussé à revisiter des chansons emblématiques telles que Marikan de Hussein Slaoui, Ya Rayah de Rachid Taha. Et puis, un jour, elle a décidé de voler de ses propres ailes avec la sortie de son premier single dont on parlera dans quelques instants. Mais avant toute chose, on fait connaissance avec Shams.
Je crois profondément que la musique doit être le véhicule d'histoires réelles, un moyen de partager des expériences humaines. Alors, dans mes compositions, je m'efforce de capturer l'essence même de la réalité, parce que c'est cette dimension authentique qui confère à ma musique un côté tangible, une résonance avec les émotions universelles qui transcendent les frontières. Si chaque chanson devient une fenêtre ouverte sur des moments de bonheur, de peine, d'amour ou même de découverte, au-delà des mots et des mélodies, ce qui distingue mes créations est la capacité à fusionner le côté réel avec une musicalité qui invite à l'évasion ou au voyage. Parce que mes compositions ne sont pas simplement des récits, mais comme j'ai déjà dit, c'est des voyages sonores qui transportent l'auditeur vers un monde de rêve. C'est l'harmonie, si je peux dire, entre la réalité et l'évasion, entre la narration sincère et la mélodie envoûtante qui définit mon approche artistique.
Et il y a également ce single Dikra qui vient de sortir il y a quelques jours, qui est en ligne, que vous pouvez aller regarder sur YouTube. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de Dikra et de ce que représente pour toi ce single, Shams?
L'idée de ce single remonte à un moment particulier, une inspiration déclenchée par une démo envoyée par mon ami Shaib Nbir. Alors cette démo m'a donné une profonde envie d'explorer et d'exprimer des émotions à travers la création de la chanson Dikra. Après venue l'étape de l'arrangement, avec les talentueux Amin Rahmoun, qui est l'arrangeur de ce morceau, et Amin Nagil, qui a enregistré et mixé le morceau. D'ailleurs, leur contribution a apporté une dimension supplémentaire à la chanson Dikra. Alors Dikra trouve son essence dans un sentiment profond de nostalgie. C'est un voyage intemporel, un retour en arrière vers des moments de joie et de tristesse. La chanson se transforme en une sorte de carnet de souvenirs, capturant l'essence de personnes, de lieux, de moments et même d'une époque qui me manque profondément. Et cela a été traduit, bien sûr, dans le vidéoclip que je vous incite à voir sur ma chaîne YouTube. Alors, le vidéoclip a été réalisé par le talentueux Bilal Etayib, qui a su traduire mes émotions en images, un hommage aux instants révolus qui continuent à résonner dans le présent.
Voilà donc une véritable expérience musicale, sonore, ton premier single Dikra. Est-ce que cela annonce peut-être la sortie d'un album prochain, notamment avec ton projet Shams? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Lancer un album est une étape qui est prévue, mais pas pour le moment. En fait, Shams est un projet musical qui porte mon nom artistique. L'objectif principal de ce projet et d'offrir à nos auditeurs une expérience musicale riche et variée, les transportant à travers un panorama de styles musicaux. Alors bien que le lancement de l'album ne soit pas fixé dans le temps, l'idée fondamentale derrière le projet Shams réside dans la volonté de créer un univers musical unique. La musique Shams est conçue pour être une invitation de voyage, parce que l'idée principale du projet Shams, c'est d'offrir aux auditeurs une expérience exceptionnelle, tout en essayant de les transporter avec nous à travers les mélodies et l'arrangement musical vers un univers de rêve et aussi de réalité.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Shams, d'avoir partagé les couleurs de ton univers assez particulier, très inspiré de la musique marocaine, et c'est vrai qu'il offre eh bien, une expérience assez exceptionnelle. D'ailleurs, tout de suite, on écoute Dikra, un petit extrait, et on se retrouve juste après, toujours dans l'Afrique en culture.
كلشي مات ورجع غير تكرا في الماضي تلح وبقى مشات ليام والوقت الزينة وفي لحظة تهون حتى العشرة
Shams avec Dikra, son tout premier single qui nous donne un avant-goût eh bien, de ce qui nous attend dans l'avenir. Merci d'être avec nous sur Média, toujours pour l'Afrique en culture. Et tout de suite, nous parlons littérature avec La Reine aux yeux de lune de Wilfred Nsandé. Alors nous sommes au Congo. En 1885, le royaume sous occupation portugaise n'est qu'une terre de désolation. Une fillette aux yeux de lune voit le jour dans les eaux de la rivière de Mpozo. Sa sœur jumelle ne survit pas. L'enfant miraculé est nommé Kimpavita, qui signifie la jumelle née de la guerre. En grandissant, Kimpa traverse des épreuves et bientôt ses discours de résistance interpellent un peu partout à travers le pays. Elle deviendra l'incarnation, la métaphore même de l'espoir, d'un avenir meilleur. Sauf que ses détracteurs, eux, la réduisent au rang de sorcière. Inspirée d'un personnage réel, le roman La Reine aux yeux de lune compte avec émotion le destin avant tout d'une femme sacrifiée. Signée Wilfried Nsandé, La Reine aux yeux de lune nous transporte dans le royaume donc du Congo. Nous sommes sous domination portugaise et des villageois sont enlevés et vendus comme esclaves aux Portugais qui développent aussi leur colonie. Au Brésil, le temps passe, une nouvelle révolte éclate et c'est là donc qu'arrive Kimpa Vita. Wilfried Nsandé ressuscite donc une figure historique de l'histoire africaine de manière générale et de l'Angola en particulier. La prophétesse Kimpa Vita, ou Dona Beatriz de son nom portugais, elle était une jeune noble du Congo et a œuvré pour l'unification du pays contre la présence portugaise. Elle a été une révolutionnaire qui a aussi réalisé un syncrétisme entre tradition ancestrale et catholicisme. Le lecteur, à travers le roman de Wilfried Nsandé, La Reine aux yeux de lune, découvre une vraie héroïne, une vraie figure historique qui a défié le colonisateur qui, sous la plume de Wilfried Nsandé, se transforme en une fable humaine, réaliste, habitée par une force extraordinaire. Un roman donc qui a à découvrir d'urgence si ce n'est pas encore fait. Et c'est sur ce très beau roman que se clôture à l'Afrique en culture. Merci encore une fois d'avoir été avec nous sur Média. Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter en avant-première l'Afrique en culture, toujours sur Média Podcast. Très bonne suite des programmes sur Média.